Ne vous êtes-vous jamais demandé comment vivent les animaux qui peuplent les eaux glaciales de l'Antarctique ? Il se trouve que j'ai eu une vie de chercheur avant d'être chroniqueur sur France Culture et que j'ai plongé dans les eaux glaciales des côtes antarctiques, soit à proximité de la station française de Terre Adélie, ou à l'opposé du continent, vous voyez le Cap Horn au sud de l'Amérique du Sud, vous traversez un détroit qui est le détroit de Drake, et puis vous arrivez sur les îles de la péninsule antarctique, et c'est là que je me suis retrouvé. Et ce qui frappe le regard, c'est un fond qui est dénudé, qui est souvent fait de roches qui sont polies, ou du sédiment, mais qui est complètement dépeuplé. Il n'y a pas âme qui vive, et ce qui nous semble à peu près normal d'ailleurs, puisque quelle espèce aurait l'idée totalement baroque d'aller s'installer dans des eaux aussi froides? Je vous rappelle que ces eaux antarctiques, elles sont à moins 1,9 degrés Celsius, puisque c'est de l'eau salée et qu'elles gèlent en dessous de zéro. Je poursuis ma descente le long d'un petit iceberg, et passé 7 mètres, le fond s'anime brusquement. On dirait qu'il y a un tapis vivant. Il y a des formes, il y a des couleurs qui s'entremêlent. Il a beau faire froid, la vie foisonne complètement. Et contrairement à votre intuition, ce que vous voyez là, ça n'est pas un tapis d'algues. C'est une épaisse couche vivante entièrement constituée d'animaux. En réalité, les 7 premiers mètres subissent le gel hivernal, qui dure quand même 8 mois de l'année, et la glace qui racle le fond va tout détruire. Mais plus bas, on est vraiment dans un jardin d'Éden animal. Ce milieu inhospitalier serait-il donc accueillant? D'abord, c'est une très longue histoire. Le refroidissement de la planète qui a conduit à l'englacement de l'Antarctique a commencé il y a à peu près 35 millions d'années. Et des espèces ont donc eu le temps d'y pointer le bout de leur museau et de s'y adapter. Qui plus est, il y a des courants puissants qui tournent autour du continent dans cet immense océan circulaire. Il faut savoir que le courant circumpolaire antarctique, qui tourne autour du pôle, se déroule sur plus de 20 000 km et que son débit le plus puissant de la planète représente à peu près 5 fois celui du Gulf Stream. Ce gigantesque courant isole l'océan Austral des autres océans et des conditions y apparaissent ainsi assez stables, avec des eaux qui sont bien sûr très froides, mais qui sont riches en oxygène, un peu moins salées et un peu plus denses qu'ailleurs. Tous les animaux, tous les organismes s'y sont-ils faits? Non, il y a certains qui n'aiment pas du tout, qui n'aiment pas le froid, ou qui n'aiment pas ces conditions. Les requins, les homards, les crabes sont totalement absents des eaux littorales antarctiques. À l'inverse, il y en a d'autres qui sont à la fois présents en nombre et bien diversifiés. Il y a des petits crustacés qu'on appelle des isopodes, et surtout des amphipodes, qui sont des cousins des gamards de nos rivières, qui sont nombreux. Les échinodermes, que ce soit les oursins, les étoiles de mer ou les concombres de mer, adorent ces eaux antarctiques. Les éponges, alors là, s'y plaisent à ravir. Et il y a un groupe peu connu qu'on appelle les pycnogonides, qui sont des arthropodes dotés de 8 grandes pattes, un peu comme les araignées dont ils sont des lointains cousins, qui se complaisent également beaucoup dans ces eaux très froides. Mais sont-ils nombreux à habiter tout en bas de la Terre ? De prime abord, ce qui est frappant, c'est le contraste avec l'autre océan polaire, c'est-à-dire celui qui est au nord, l'océan Arctique. L'océan Arctique, il est très pauvre, alors que l'océan Austral est un Eldorado pour les groupes qui ont réussi à s'y implanter. Prenons le cas simplement des oursins et tentons une comparaison. Si on prend tous les oursins dans des environnements assez diversifiés qui vont finalement de l'Égypte jusqu'à l'océan Arctique. Donc on fait toute la Méditerranée, tout l'Atlantique nord-est, jusqu'au Cap Nord, on dépasse le Cap Nord. On a en gros une quarantaine d'espèces d'oursins. Si on prend l'océan Austral, qui lui est très homogène finalement, donc on pourrait s'attendre à avoir moins d'espèces, on a 80 espèces d'oursins, soit deux fois plus. Donc le contraste est absolument énorme, et on voit bien que dans un cas, la vie s'est vraiment plus dans ces environnements autour de l'Antarctique. Et sans surprise d'ailleurs, il y a un très fort endémisme qui est associé à cette richesse en espèces que l'on ne trouve nulle part ailleurs. Une telle situation, la spécificité de la faune, sa richesse, son endémisme, est le fruit de l'histoire de l'Antarctique. Du fait que ce continent a été isolé, qu'il a vécu des alternances de périodes glaciaires et de périodes interglaciaires, ça veut dire que les espèces y sont un petit peu chez elles, et cela depuis longtemps. L'endémisme y est donc fort, et tout y est devenu un petit peu spécial. En fait, ça a abouti à des adaptations assez incroyables. La première de ces adaptations, c'est comment finalement se préserver du froid. La mer gèle en surface, et même là où l'eau reste liquide, sa température est inférieure à 0 degré. Chez les animaux à sang chaud, on peut penser aux phoques, on peut penser aux manchots, il faut faire marcher la chaudière et porter un bon manteau de graisse, de poils ou de plumes. Mais chez ceux qui n'ont pas le chauffage central, c'est plus dur, évidemment. Pour les crustacés, les oursins ou les étoiles de mer, la salinité de leurs fluides internes permet de surmonter le problème. Il y a de petits mollusques du groupe des patelles, vous savez, ces chapeaux chinois qu'on trouve sur les rochers, sur les côtes européennes aussi, mais il y en a en Antarctique. Alors ces patelles sécrètent un mucus visqueux qui leur permet de supporter à marée basse des températures vraiment extrêmes, puisque ces animaux vont se retrouver exposés à l'air glacial quand c'est marée basse. Et ces petits mollusques peuvent maintenir leurs fluides internes à l'état liquide jusqu'à 20 degrés en dessous de zéro. Et si on pense aux poissons, les poissons, ils n'ont pas la chance d'avoir un fluide interne de salinité suffisante pour ne pas être congelés. Et on n'a pas de poissons congelés en Antarctique. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait ? Finalement, ils se sont inspirés de nos voitures. Et plus exactement, ils les ont précédés, car ils sont dotés de protéines antigel qui empêchent le gel de leur sang. Comment rester actif dans de l'eau glacée ? Rien que d'y penser, on frissonne un peu, parce qu'on n'a pas tellement envie de se baigner là-dedans et d'être très actif dans ces eaux très très froides. Parce qu'il ne suffit pas de ne pas geler, il faut aussi pouvoir vivre « normalement », entre guillemets. Donc avoir une physiologie qui permette des performances compatibles avec la nage ou la reptation, la prise de nourriture, la reproduction, etc. Enfin, les activités normales d'un organisme. On a pu constater que l'optimum de fonctionnement de certains poissons se situait autour de 0 degré. Tout ça grâce à des enzymes dont le rendement est maximal à basse température. Je vous rappelle que nos enzymes à nous, le rendement maximal, il est autour de 37 degrés. Donc on a la recette pour ne pas geler, pour être actif. Mais comment ne pas s'épuiser dans ces eaux très froides ? Les animaux ectothermes, c'est-à-dire les animaux dont la température est celle du milieu ambiant, adoptent un métabolisme ralenti, ce qui leur permet de réduire leur facture énergétique. Ils bougent moins vite, la vitesse de locomotion des mollusques ou des anémones est divisée par deux par rapport à celle de leurs homologues tempérés. Ils digèrent doucement, de 2 à 10 fois plus lentement quand même. Un avantage en hiver quand la nourriture se fait rare. La patelle de la zone de battement des marées, dont on a parlé tout à l'heure, économise sur sa capacité d'accrochage au rocher, qui est 2 à 20 fois moindre que celle des patelles tempérées. Il faut dire qu'il y a moins de touristes pour essayer de les détacher des rochers. Tous ou presque ont un développement ralenti d'un facteur 2 à 5 par rapport aux espèces tempérées équivalentes. Avec ces développements au rythme très lent, associés à des métabolismes ralentis, c'est tout le cycle de vie qui va être impacté, la maturité sexuelle bien sûr va être tardive, et surtout la durée de vie va être étendue. Alors ces animaux du froid vivent-ils vraiment plus longtemps ? Le cas le plus spectaculaire est celui d'une éponge dont l'âge a été estimé à 1550 ans. Ça veut dire que la bête, quand elle était jeune, aurait pu connaître Clovis, puisqu'ils sont nés quasiment au même moment, enfin si Clovis était allé en Antarctique, et qu'elle aurait pu assister à la chute de l'Empire romain. Mais ça n'est rien à côté d'une autre éponge, d'un autre groupe, dont l'âge estimé, et je parle bien de l'âge d'un individu, est supérieur à 13 000 ans. Ça veut dire que cet individu a connu le néolithique, alors qu'il était déjà d'un âge très avancé de plusieurs millénaires quand même. Il ne s'agit pas seulement des plus vieux animaux du monde, mais des plus vieux êtres vivants connus. Et même si la vie d'une éponge n'est pas trépidante, ça laisse quand même pantois. Mais ces animaux qui vivent longtemps, sont-ils également plus gros ? Certains le sont, car l'effet dû au ralentissement de leur développement est plus que compensé par l'extension de leur durée de vie. Alors sans surprise, on va retrouver ici nos amis les éponges, dont la plus haute atteint 2 mètres pour 1,50 m de diamètre. Alors les amphipodes, ces petits crustacés, qui d'ordinaire mesurent quelques millimètres, atteignent en Antarctique 10 cm. Les pycnogonides, ces arthropodes à 8 pattes, habituellement infra-centimétriques, sont décimétriques. Je peux vous raconter une aventure personnelle lors d'une mission en mer de Weddell en 2013, où là j'ai vu sortir de l'eau une étoile de mer de 80 cm de diamètre et qui devait peser dans les 15 kg. Vous voyez la bête. En bref, nombre des animaux qui peuplent l'océan Austral vivent très vieux et sont très grands par comparaison aux standards de leur groupe. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des changements de comportement. Parce que dans ces environnements hostiles, il faut s'occuper de sa progéniture. Chez la plupart des invertébrés marins dont les sexes sont séparés, les gamètes, que ce soit les spermatozoïdes ou les ovules, sont simplement largués dans l'eau de mer. La fécondation va être externe, va se produire dans l'eau de mer. Et puis, la larve va se développer. Généralement, une larve va se développer. La plupart des larves vont se faire dévorer. Et puis, quelques-unes vont survivre. Mais ce n'est pas ce qui se passe en Antarctique. Là-bas, le développement de ces mêmes invertébrés ne passe plus par une phase larvaire, mais il va se dérouler bien à l'abri, sur ou même dans le corps des femelles. Cela vaut pour les éponges, pour les mollusques ou encore pour les échinodermes, à l'image de pas mal d'oursins. Alors regardons ce qui se passe chez ces oursins. Chez pas mal de ces oursins, les femelles sont différentes des mâles. Leur squelette se creuse de poches profondes qui vont jouer le rôle de refuge. Je vous explique. La fécondation va rester externe, mais les ovules vont être retenus entre les piquants de la femelle. Et ce sont de gros ovules qui sont bourrés de réserves nutritives. Ils sont émis en relativement petit nombre, au maximum une centaine et parfois moins d'une dizaine. Les œufs fécondés vont être stockés dans des poches incubatrices bien protégées par une grille de piquants. Les jeunes vont se développer ainsi sur le dos ou sur le ventre de leur mère en se nourrissant des réserves nutritives issues de l'ovule. Et ils vont passer plusieurs mois à grandir, puis ils vont sortir des poches pour commencer leur vie de petit oursin juste à côté de leur mère. Et on parle d'oursin kangourou. Est-ce que vous voulez une dernière surprise ? En 2015, on a fait des trous dans la banquise. Et sous 740 mètres de glace flottant sur l'océan, on a trouvé des recoins d'eau liquide. Donc on était déjà surpris de trouver de l'eau. Mais surtout, on a trouvé de la vie à l'intérieur de ça. On a descendu des caméras à travers le trou et on a vu des poissons, dont certains d'ailleurs nageaient à l'envers, prenant le plafond de glace pour le fond marin. On a vu des crustacés et on a vu quelques autres invertébrés qui vivent ici, sous la plateforme de glace de la mer de Ross, à plus de 800 km de distance de l'eau libre. On a donc pu constater qu'il y avait un foisonnement du vivant dans ces eaux très froides de l'Antarctique, des adaptations absolument extraordinaires, mais qui sont en première ligne face au réchauffement climatique. Espérons simplement qu'il n'est pas trop tard pour la survie de ces formes vivantes extraordinaires, parce que ça serait quand même dommage qu'une éponge ayant connu Clovis disparaisse finalement encore si jeune. Le pourquoi du comment, science, par Bruno David. Réalisation, Charlotte Roux.